Marche du Monde. Valérie Nivelon.
La Marche du Monde reçoit Hervé Bourges, auteur du film documentaire L'Algérie à l'épreuve du pouvoir, un film réalisé par Jérôme Sesquin. Après l'ère autoritaire de 1962 à 1988, c'est le premier épisode. Le second, l'Algérie affronte l'ère des tempêtes dès 1988.
Nous avons arraché des espaces de liberté qui n'existaient même pas en Europe. Tous les jours, des jeunes, des travailleurs, des femmes, des différentes couches de la société algérienne pouvaient s'exprimer. La revendication démocratique, économique, sociale, toute la société algérienne était en mouvement et il y a eu une nouvelle constitution en 1989.
Cette nouvelle constitution est adoptée le 23 février par référendum. Mouloud Amrouche, jusqu'ici secrétaire général de la présidence, devient le nouveau Premier ministre. Il est le principal chef d'orchestre de cette politique d'ouverture voulue par le président Chadli.
Hervé Bourges, donc également évidemment narrateur de cette histoire politique de l'Algérie depuis 62. Alors je suis très heureuse de pouvoir évoquer avec vous 88, qui marque un formidable élan démocratique en Algérie. 88 très méconnu au fond, car ces événements ont été totalement effacés par la tragédie qui a suivi, par ces années noires. Mais quand même, on entend dans votre film l'enthousiasme de Louisa Hanoun du Parti des Travailleurs lorsqu'elle évoque ce moment historique. C'est un moment d'espoir formidable, Hervé Bourges, 88 en Algérie.
Ah oui, vous savez, aujourd'hui, quand on parle des printemps arabes qui débouchent, on le voit hélas sur souvent des automnes intégristes, on dit mais et l'Algérie, pourquoi y a-t-il pas de printemps en Algérie? Mais l'Algérie a connu son printemps en 88, comme on le dit ici dans le film. Ça a été une ouverture extraordinaire, une ouverture d'abord l'autorisation des partis politiques et multitude de partis, comme les témoins le disent dans le film. Une liberté de la presse qui n'a jamais été remise en question par la suite. Il y a eu des hauts, des bas, bien sûr. Il y a eu des tensions. Il y a eu des journalistes pourchassés. Il y a surtout eu, mais nous en parlerons après, des journalistes qui ont perdu la vie dans ce combat pour l'indépendance de la presse. Il y a eu une liberté d'association qui était extraordinaire. Les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient, pouvaient descendre dans la rue. Les jeunes se faisaient connaître. Les femmes avaient des associations qui revendiquaient un droit d'égalité, etc., etc. Ce fut un mouvement extraordinaire qui malheureusement n'a pas continué, le souffle est retombé dans des conditions tragiques dont parle le film.
Alors cette ouverture a amené, vous le montrez, de nombreuses voix à s'opposer au FLN, et pas d'une façon monolithique. On voit les démocrates, les berbères, les islamistes aussi critiquer ouvertement le pouvoir et son mal endémique, la corruption. Il y a cette formule extraordinaire sur le pot de miel.
Oui, le premier, c'est Ali Yahya Abdennour, l'ancien président, oui, de la Ligue des droits de l'homme, avocat, ancien ministre, qui dit que le canard enchaîné avait dit que on mettait pas seulement le doigt dans le pot de miel, mais que toute la main y passait. Oui, oui.
Cette corruption est quand même dénoncée justement par tout le monde lors de ce printemps algérien.
Oui, tout à fait. Il faut dire que les gens revendiquent. Pour une fois, ils ont la parole et ils dénoncent le fonctionnement de la société algérienne et les décisions prises jusque-là par le pouvoir militaire, et réclament, au travers d'élections, la possibilité de mettre fin à cette corruption.
Et les Algériens donc descendent dans la rue, Alger est en émeute, et pour répondre, l'État envoie l'armée. Les explications du général Nézard dans votre film, suivies des dénonciations, des exactions des militaires par des témoins que vous avez rencontrés, Hervé Bourges.
La police était dépassée. C'est ce qu'on nous disait, que la police était dépassée. La police n'arrive pas. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'armée. J'ai été désigné pour le service d'ordre à Alger.
Mais ce qui était effrayant, c'est que le 5 octobre, l'armée a tiré avec des balles réelles. L'armée a tué, elle a torturé. L'armée a torturé, la police a torturé.
Il y avait une salle d'interrogatoire et deux salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. Il y avait une salle de sodomisation où on faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu.
Et cela, ça a laissé une impression chez les Algériens du jamais vu.
Hervé Bourges, expliquez-nous, on n'arrive pas à comprendre. D'un côté, le Premier ministre du président Chadli, donc Mouloud Amrouche, ouvre les vannes de la liberté d'expression. Vous en avez montré justement toutes les formes. Mais de l'autre, il y a cette répression de ces manifestations. On envoie l'armée et il y a des exactions.
Oui.
On ne comprend pas.
Alors d'abord, je dirais que moi, je ne me trouvais pas en Algérie à cette époque, hein, puisque j'avais quitté l'Algérie en 1966. Mais simplement, j'ai tenu à faire parler dans mon film tous les protagonistes de cette époque. Et précisément, ce à quoi on a abouti en Algérie avec l'ouverture démocratique, ben, c'est un élan populaire qui n'a pas été mesuré et qui a conduit à une remise en ordre par l'armée avec des exactions et avec des gens qui ont subi une répression alors que l'ouverture démocratique était en train de se faire.
Alors dans ce débordement général, certains sont beaucoup mieux organisés que d'autres, et en l'occurrence les islamistes. Ils ont deux porte-voix principaux, Ali Belhadj et Abbassi Madani. Abbassi Madani, que l'on va entendre tout de suite, est un ancien maquisard du FLN. Les mots d'Abbassi Madani que je reprends. Mes frères, ceux qui ont dirigé le pays de l'indépendance à nos jours, qu'en ont-ils fait? Le temps est venu pour le peuple algérien d'imposer son existence. La voix d'Abbassi Madani que vous nous donnez à entendre dans votre film Hervé Bourges, mais également celle d'Ali Belhadj qui appelle à la grève illimitée au printemps 91, et ensuite l'état d'urgence sera instauré.
En ce début d'été 1991, l'armée investit les rues d'Alger pour garantir un retour au calme et l'état de siège est instauré. Les islamistes, eux, radicalisent leur discours.
أنه يجوز لنا أن ندافع على أنفسنا لا اعتداء وإنما مدافعة على النفس.
On voit une escalade dans la rhétorique islamiste. Hein. Quand on reprend les propos de Ali Belhadj sur cet extrait Hervé Bourges, il dit « S'ils nous attaquent, il faut réagir selon la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Avec l'aide de Dieu, ils nous ont permis de nous défendre, sans provocation, mais il faut se défendre. » Ce sont des documents d'archives qui sont criants, Hervé Bourges. Qu'est-ce qui fait que ces discours, qui sont tout de même extrêmement violents, sont reçus par les Algériens, sont acclamés par les Algériens, qui mettent vraiment à cette époque-là, et quand on les interroge aujourd'hui, ils en sont d'ailleurs très tristes, mais à l'époque, sincèrement, ils ont un vrai espoir. Ils ont un vrai espoir lorsqu'ils écoutent ces leaders.
Oui, ben parce que c'était une autre tonalité que celle des pouvoirs en place, et puis qu'il y a eu des élections, qui étaient des élections libres, mais où les forces de sécurité, les pouvoirs spéciaux, la sécurité militaire, estimaient que la liste du Front islamique du salut aux élections municipales de 1991 ne l'emporterait pas. Il pensait qu'il y aurait un certain équilibre, mais qu'il ne serait pas majoritaire. Ils ont fait ce pari, et le peuple qui avait la possibilité de choisir a choisi dans ces élections ceux qui se sont montrés par la suite les plus extrémistes et qui représentaient pour une partie du peuple algérien l'espoir d'un renouveau.
Alors effectivement, dans cette Algérie éprise de liberté, vous venez de le souligner, c'est finalement le fils qui gagne ces élections législatives de décembre 1991. Et vous donnez la parole dans votre film à ceux qui pensent que si un scrutin proportionnel avait été maintenu, le fils n'aurait pas gagné.
Oui, c'est exact. Il y a eu un jeu vicieux fait par les services de sécurité, pensant qu'on pouvait organiser des élections selon le modèle de l'époque et qu'il y aurait un petit équilibre et que les forces du fils ne l'emporteraient pas. Ils se sont trompés.
Alors, suite aux élections, le président Chadli démissionne. L'armée prend collégialement le pouvoir avec le général Nezar et sollicite un homme exilé et silencieux depuis des années, Mohamed Boudiaf.
Tous ces gens-là sont discrédités. Vous demandez à n'importe qui, vous demandez au tribunal, tout le monde est voleur, des voleurs. C'est demandé aux trafiquants, ainsi de suite. Il s'est créé des conditions en Algérie où s'enrichir, ça donnait à la corruption, au privilège, c'est devenu quelque chose de normal. Et l'exemple vient d'en haut. Ça, c'est sûr.
Pourquoi Mohamed Boudiaf, Hervé Bourges?
Eh bien, juste avant, quand même, rappeler que l'armée a eu peur d'une prise de pouvoir légale par les islamistes et a interrompu le processus électoral démocratique qui a conduit à la démission de Chadli, à la mise en place d'un pouvoir temporaire et à l'arrivée de Mohamed Boudiaf. L'armée s'est rendu compte qu'il était indispensable, devant la situation nouvelle qui existait en Algérie, d'avoir à la tête de l'État une personnalité honnête, une personnalité nationaliste, une personnalité qui pourrait avoir le soutien du peuple algérien. Ils sont allés chercher un des 5 chefs historiques de la révolution algérienne, Mohamed Boudiaf, qui vivait au Maroc depuis pratiquement l'indépendance et qui ne comptait pas du tout jouer un nouveau rôle politique. C'est d'ailleurs assez exceptionnel, certains ont pu s'interroger, certains le disent dans le film, qu'un homme comme Boudiaf, qui était un homme ouvert au multipartisme, qui était un homme qui souhaitait que le pouvoir des civils l'emporte sur le pouvoir des militaires, accepte que les militaires fassent appel à lui. Et les militaires pensaient, avec Boudiaf, retrouver une légitimité et permettre au peuple de mettre fin à la tentation islamiste.
On écoute le franc-parler de Mohamed Boudiaf.
Ce monde-là qui a été arrêté, c'est en vertu de l'état d'urgence. État d'urgence qui a été imposé aux autorités. Parce qu'il fallait en finir avec cette situation qui, chaque vendredi, posait des problèmes aux forces de l'ordre et aux citoyens.
En 6 mois, Mohamed Boudiaf gagne la confiance du peuple algérien avec son discours de vérité. Mais il se fait aussi beaucoup d'ennemis, les islamistes et une certaine oligarchie corrompue. C'est dans ce contexte que le 29 juin, il se rend à Annaba pour prononcer une conférence. C'est un exercice qu'il aime tout particulièrement, se mêler physiquement au peuple algérien. Son discours est filmé par la télévision algérienne. Quand soudain une grenade éclate sur sa gauche, puis une rafale de mitraillettes retentit. Mohamed Boudiaf ne se relèvera pas.
La mort de Mohamed Boudiaf, un document d'archives extrait de votre film « L'Algérie à l'épreuve du pouvoir ». Hervé Bourges, c'est un moment extrêmement violent et émouvant de votre film. Cet homme intègre, vous l'avez souligné, cet homme qui a accepté de laisser ses intérêts personnels au profit des intérêts nationaux de son pays, paye le prix maximum.
C'est quelqu'un que je connaissais bien, puisqu'il avait été un des 5 détenus du temps de la guerre d'Algérie, après l'arraisonnement de l'avion le 22 octobre 1956. Je connaissais au même titre que Ben Bella, au même titre qu'Aït Ahmed, et j'avais des relations personnel avec lui, comme avec Aït Ahmed et comme avec Ben Bella. Et ce que vous entendez dans le film est tiré d'une marche du siècle animée par Jean-Marie Cavada, qui a été réalisée avec Mohamed Boudiaf. J'étais à l'époque président de France Télévisions, c'était dans les années 92-93, et j'avais proposé à Jean-Marie Cavada de faire cette marche du siècle, et je suis allé avec lui. Et le soir, Mohamed Boudiaf m'a reçu en tête à tête et nous avons dîné ensemble. Et je lui ai dit qu'il me semblait qu'il aurait du mal à rétablir l'ordre dans le pays, qu'il aurait du mal à réaliser l'unité du pays, qu'il aurait eu du mal à prendre son indépendance vis-à-vis des militaires, qu'il aurait du mal à dénoncer les corrompus en prenant des décisions qui, bien évidemment, risqueraient d'être mises en échec.
Et que vous a-t-il répondu ?
Et il m'a répondu... Mais je compte sur le peuple pour m'appuyer. C'est exactement ce que m'avait dit Ben Bella à la veille du 19 juin 1965, alors qu'on voyait des chars dans les rues d'Alger, et que je lui avais dit, mais on parle de coup d'État. Et il m'avait répondu, non, c'est Yassef Saadi qui tourne la bataille d'Alger, le peuple ne permettra pas. Et bien, on a vu ce qui est arrivé. Il a suffi qu'un fanatique, armé par qui on ne le sait pas, et mon fils n'a pas réussi à le savoir, mette fin à la vie d'un homme intègre et d'un homme qui voulait le bien du pays.
On est dans un climat extrêmement violent. L'État ouvre des camps pour lutter contre le terrorisme, enferme jusqu'à 17 000 détenus. Un de vos témoins, Hervé Bourges, dit que la génération qui a libéré l'Algérie du joug colonial est responsable de cette plongée dans la violence.
Il y a une responsabilité terrible, si vous voulez, pour notre génération. Nous avons négligé cette jeunesse, nous l'avons ignorée, et nous nous sommes réveillés un matin pour la trouver ailleurs, avec cette graine de violence absolument terrible. Nous sommes responsables de cela.
Responsables ? Car elle n'a pas su être à l'écoute de la jeunesse algérienne. Vous qui connaissez bien l'Algérie, qui avez aussi votre propre histoire algérienne, qu'en pensez-vous ? Pour une fois, dites-nous votre sentiment personnel.
Écoutez, moi je pense la même chose, mais c'est facile de le dire après, quand on n'est plus dans l'action, si vous voulez. Et puis c'est facile aussi pour des responsables de le dire quand ils sont dans l'opposition, ou quand ils ne sont plus au pouvoir. Mais c'est très sincère. Hein. Quelqu'un comme Bachir Boumaza, qui était un des responsables du FLN en France, évadé de la prison de Fresnes dans les années 60, et qui occupait des fonctions le ministre de l'économie auprès de Ben Bella, puis le ministre de l'information avec Boumediene, se rend compte de sa responsabilité personnelle et de la responsabilité des responsables de l'époque qui ont permis de ne pas dire ce qu'ils avaient à dire, de ne pas s'opposer comme ils auraient dû le faire. Et je crois que aujourd'hui ceux qui parlent sont des hommes d'expérience qui disent la vérité.
Alors, pour sortir de ce cercle vicieux de la violence, deux écoles de pensée. Je rappelle d'ailleurs que cette violence a fait quand même 200 000 morts en Algérie. Peu de familles ont été protégées de cette violence. Deux écoles de pensée s'affrontent, les éradicateurs et les réconciliateurs, comme l'explique Louisa Hanoun, présidente du Parti des Travailleurs.
Les éradicateurs... C'est un courant d'opinion, un courant politique qui a considéré qu'il fallait combattre les islamistes par tous les moyens. Les autres, les réconciliateurs, ce sont ceux qui ont considéré, comme nous, qu'il fallait plutôt chercher une solution politique négociée entre Algériens pour arrêter les fusions de sang.
En attendant, la population algérienne paie le prix fort. Quelle famille n'a pas été meurtrie par la guerre civile ? Les militaires vont peu à peu vouloir redonner une direction politique à l'Algérie en organisant de nouvelles élections présidentielles. Mais pour cela, il faut que le président Zeroual démissionne.
En septembre 1998, nouveau retournement. Yamin Zeroual annonce sa volonté de démissionner.
أمامكم أيها الجزائريون والجزائريات عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة قبل نهاية الشهر الثاني من سنة 99.
Vous savez que l'armée a déposé trois présidents. Elle a déposé Ben Bella, elle a déposé Chadli, elle a déposé Yamin Zeroual.
Résultat prévisible, Abdelaziz Bouteflika remporte l'élection présidentielle avec près de 74% des suffrages. Un résultat impressionnant, à défaut d'être, pour certains, incontestable.
Que ce soit ici ou ailleurs, 74%, c'est quand même respectable. Je n'aime pas les 99%.
Et ce sera le dernier extrait que nous vous proposons en avant-première aujourd'hui du film d'Hervé Bourges, donc L'Algérie à l'épreuve du pouvoir.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Hervé Bourges, à la lumière de votre grande enquête historique, c'est finalement la continuité politique plus que la rupture ou le chaos qui apparaissent, sont toujours les mêmes, la génération de l'indépendance, de 62, les héros de la libération nationale, qui continuent à diriger l'Algérie. Le président Bouteflika en est à son troisième mandat.
Oui, alors d'abord revenons sur la décennie sanglante. Vous avez rappelé qu'il y avait eu 200 000 morts, c'est exact. Les morts victimes du fanatisme des islamistes et de l'armée, et de la répression. Des journalistes assassinés par ceux qui ne voulaient pas qu'une presse libre existe, c'est-à-dire les fanatiques. Il y a quand même une vingtaine de journalistes qui ont été assassinés. Il y a eu des dizaines d'intellectuels, d'universitaires, d'écrivains, de chanteurs, d'artistes qui ont perdu la vie à cause du fondamentalisme, il faut quand même le rappeler. Et il y a eu la guerre entre les éradicateurs qui disaient il faut mettre fin à cette violence qui existe et mettre fin au maquis islamiste, et puis les autres qui pensaient qu'il fallait négocier. Il y a eu des tentatives qui ont été faites auxquelles ont participé un certain nombre de responsables politiques, de Haït Ahmed à Ben Bella, en passant par Ali Yahia, qu'on en voit dans le film. Et puis finalement, ça n'a pas abouti. Zerwal était obligé de démissionner et Bouteflika est arrivé. Et quand même, sa première déclaration, ça a été, un, de faire l'unité du pays, de remettre dans la société ceux qui n'avaient pas de sang sur les mains, et qui étaient encore dans les maquis, et qui pouvaient revenir. Et ça n'a pas été simple, ce n'est pas terminé d'ailleurs, parce que beaucoup qui ont été victimes des assassins n'acceptent pas de les revoir, de les croiser dans les rues d'Alger ou d'ailleurs. Pendant ce temps-là, Bouteflika s'était forcé de mettre en place l'État, de permettre à l'économie de se développer, de profiter de la manne des hydrocarbures pour développer le pays, ses routes, son électricité, son etc. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où tout le monde s'interroge pour savoir si à la légitimité révolutionnaire va faire place la légitimité populaire.
Le temps parce d'une nouvelle ère, d'une troisième volée,
parce
est arrivé
que ceux qui sont au pouvoir sont ceux qui ont lutté pour la lutte de libération, qui ont conservé ce pouvoir et qui n'imaginent pas d'autre histoire de l'Algérie qu'une histoire qui commence le 8 mai 45 ou le 1er novembre 1954, qui s'achève avec la victoire de l'indépendance en 62. Et qui ensuite, bien, est prise en main par ceux qui ont abouti à cette victoire. Or, il faut que l'Algérie s'ouvre autre chose. Mais c'est ce qu'a dit Bouteflika d'ailleurs à l'occasion de l'anniversaire du 8 mai 45 à Sétif, où il a dit la période de la légitimité révolutionnaire est terminée. Prenez le pouvoir.
Alors justement, prenez pouvoir, c'est aussi raconter votre propre histoire. C'est ce que vous proposez, Hervé Bourges, avec ce film, de raconter une histoire politique de l'Algérie depuis son indépendance. Vous montrez le film au président Bouteflika ?
Non, c'est un film que j'ai fait parce que personne ne l'avait fait encore. On a eu l'occasion, et ça a été très bien, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, faire des films sur la guerre d'Algérie. Et tout y est passé, les Harkis, les Pieds Noirs, le FLN, la torture, l'OAS. Et puis ça s'arrête hein, en mai 62. Mais moi j'ai voulu faire ces 50 ans d'histoire de l'Algérie indépendante, sans parti pris et sans complaisance, et uniquement avec des témoignages d'Algériens qui m'ont fait confiance, et j'espère que ce film participera un petit peu à la connaissance de l'histoire contemporaine de l'Algérie, et que ça constituera aussi peut-être un premier témoignage patrimonial.
Une question plus personnelle, avant de se quitter, Hervé Bourges. Vous avez une histoire personnelle avec l'Algérie, vous avez témoigné dans cette émission et vous nous avez donné nombre d'anecdotes inédites et je vous en remercie. Jeune journaliste, vous aviez choisi votre camp, c'est-à-dire contre la guerre d'Algérie. Vous avez participé à la dénonciation de la torture et vous avez ensuite accompagné la construction nationale en Algérie. C'est un pays que vous aimez. De votre point de vue, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même à l'occasion de cette enquête?
Vous avez tout à fait raison. D'abord, je suis quelqu'un qui suis fidèle en amitié, fidèle à ceux avec qui il a travaillé. Hein. C'est vrai de Michelet, c'est vrai de Ben Bella, c'est vrai d'autres. Mais j'ai appris en Algérie, comme en Afrique d'ailleurs, la patience, la fraternité et le doute.
Vous êtes un vrai journaliste alors.
Merci.
Merci Hervé Bourg. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Algérie à l'épreuve du pouvoir, 1962-2012. Un documentaire de 2 fois 60 minutes réalisé par Jérôme Sesquin. Algérie, une histoire politique, c'était une rediffusion de La Marche du Monde, réalisée par Cécile Pompéani. Écrivez-nous, marche.monde@rfi.fr. Continuez à vous exprimer sur la page Facebook de La Marche du Monde. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.